Amos.
Chapitre 4. Et nous avons vu la semaine dernière que la conclusion de ces deux premiers chapitres, c'est que plutôt que de regarder uniquement le mal ou le péché des autres, c'est de se regarder soi-même et vouloir rayonner pour le Seigneur dans notre monde. Maintenant, on va commencer avec le chapitre 3. Que l'on peut appeler le lion rugi. On l'a déjà vu d'ailleurs au chapitre 1, le verset 2. Les premiers mots d'Amos de Sion, l'Éternel rugit. Donc, il part fort, on ne doit pas l'ignorer. Donc, je vais lire les versets 1 à 8 du chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfant de Père. Contre toute la famille qui vous fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? S'entend la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Donc, on voit dans ce texte d'abord que c'est Dieu qui parle, qui rugit à travers le prophète Amos en l'occurrence. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce, le verset 1. Verset 7. Le Seigneur Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et verset 8, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Voilà, prophétiserait. C'est Dieu qui parle. Et finalement, il dit deuxième chose. Pourquoi un jugement? C'est que Israël est responsable. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Je vous ai choisi. Et il dit même au verset 1, référence évidente, c'est la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est la sortie de l'Égypte, c'est le peuple choisi. Et à partir du moment où on est choisi, on a une plus grande responsabilité. Ça me fait penser à ces paroles de Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, qui dit verset 20, alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc, à qui on confie quelque chose, il y a une plus grande responsabilité. Israël était le pays, le peuple choisi, une plus grande responsabilité pour vivre pour le Seigneur. Et entre les versets 1 et 2 et 7 et 8, il y a toute une suite de versets qui dit « Il n'y a pas d'effet sans cause, parce que Dieu est souverain. » Toute une suite. Est-ce que le lion rugit s'il n'y a pas de proie? Je veux dire non. L'oiseau Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc, ils se mettent d'accord, ils envoient des SMS pour dire on va se retrouver à la gare Saint-Lazare à 18h, je ne sais pas quoi. Donc, ils se concertent pour aller quelque part. Ce n'est pas le hasard qui fait que tout d'un coup, ils se trouvent tous les deux à Saint-Lazare à 18h. L'oiseau tente-t-il de refiler à terre ce qui est un piège? Donc, si l'oiseau est piégé, c'est qu'il y a un piège. Et il arrive jusqu'à dire que est-ce qu'on sent de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? C'était sonner la trompette, c'était attention, l'ennemi arrive. Et il va encore plus loin dans la souveraineté de Dieu. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et on va voir cela tout à l'heure. C'est que il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Et tout ce qui arrive, c'est difficile de dire, mais c'est tout ce qui arrive, c'est que dans un sens, l'Éternel est l'auteur. Donc, quand on pense à l'actualité, on peut dire, mais comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas, et là je fais une petite parenthèse et on n'a pas le temps d'approfondir, on peut le faire autour des tables à midi dans notre discussion, c'est que même si l'Éternel, on n'a pas dit qu'il veut que tout arrive, mais qu'il permet que les choses arrivent, parce qu'il a un plan global, magnifique, que l'on ne comprend pas. Donc même parce que le monde est rempli de péchés depuis la chute, depuis la désobéissance de nos premiers parents, rien n'est parfait, rien ne pourrait être parfait. J'ai écrit tout un chapitre dans un livre publié par Exercice sur le hasard, parce qu'on m'a demandé de faire cela, parce que j'avais perdu ma première femme dans un accident de voiture. Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a voulu? Dans un sens, non, mais il l'a permis. Et dans un sens, il a voulu, mais pourquoi? On ne sait pas. Parce que lui seul est capable de mesurer tout. Alors maintenant, on parle de migrants qui échappent à la guerre. C'est terrible. Qui est capable de mesurer? S'il y a des personnes qui viennent de ces pays-là, qui arrivent dans des pays européens, qui se convertissent et qui ont la vie éternelle? Qui sommes-nous pour peser les pour et les contre dans tout ça? On ne peut pas savoir, on ne peut pas. Seul Dieu est capable de le faire. S'il y a un accident qui a coûté une vie, est-ce que cela a permis à quelqu'un quelque part de faire davantage confiance en Dieu? Je connais un couple dans ma première église qui s'était converti suite justement à un cancer de leur fille. On n'est pas capable, ce sont des choses difficiles à imaginer. C'est pour ça que pour en discuter, c'est nécessaire d'approfondir. Mais de deux choses l'une, soit tout est hasard, où Dieu, quelque part, dirige l'histoire vers son aboutissement. Parce qu'il n'y a que trois façons de regarder l'histoire. La façon un peu postmoderne actuelle, c'est de dire on va nulle part. C'est du hasard le plus total. Ou bien, comme certaines sagesses orientales qui pensaient que l'histoire était circulaire, on revient toujours aux mêmes choses. Ou bien, la conception chrétienne qui a dit. On va quelque part, on va vers un aboutissement où Christ sera tout en tout, c'est le premier en tout. Mais le moyen d'y arriver dans un monde anormal n'est pas évident et on ne pourra jamais tout comprendre. Mais ce qui est important, c'est que Dieu révèle une partie de cela à ses prophètes. Donc, verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé, c'est sûr. Mais le prophète est là pour donner au moins certaines explications. On ne va pas tout comprendre, mais pour que l'on comprenne un peu au moins pourquoi les choses arrivent. Donc, à partir du verset 9, du chapitre 9, fois jusqu'à la fin du chapitre 4, il y a toute une série d'appels à la repentance. Et on voit dans tout cela que les choses arrivent et que dans la pensée de Dieu, c'était pour provoquer la réflexion, pour que les gens se disent, c'est pas normal, ce que je vis n'est pas normal, ce qui est dans ce monde n'est pas normal. Mais est-ce que ma représentation mentale des choses est vraie, ou est-ce qu'il faut que je change d'avis pour m'aligner sur la pensée de Dieu? C'est ça la repentance, c'est le changement de pensée, le changement d'avis, le changement de compréhension des choses, pour dire, jusque-là, j'avais tout faux dans ce sens, mais je change d'avis pour donner raison à Dieu. Donc, il y a beaucoup d'appels à la repentance. On va les passer un petit peu en revue. Et d'abord, je vais lire Amos 3, verset 9, jusqu'au verset 3. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays et détruira ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit ou sur les tapis d'un lit. Écoutez, déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez, buvons. Le Seigneur éternel a juré par sa sainteté. Voici, des jours viendront pour vous que l'on vous enlèvera avec des crochets, votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. C'est très fort. C'est pour ça que j'ai dit plus d'une fois que le film sur TF1 dimanche soir est souvent plus proche de la réalité biblique que nos cultes. Avec sa violence et tout. Alors, qu'est-ce que l'on voit? D'abord, bizarrement, Dieu convoque les ennemis, les Philistins, les Égyptiens, comme témoins. C'est le verset 9. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod, donc ça c'est une ville philistine, et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, donc c'était le lieu d'habitation d'Israël, et vous voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Le Seigneur convoque un petit peu, bon, c'est poétique, on va dire, mais convoque même les non-juifs, les non-chrétiens, on dirait aujourd'hui, à venir voir, dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qui se passe dans mon peuple? Alors, qu'est-ce que l'on voit? Il y a toute une liste au chapitre 3, verset 10 et 4, verset 1, verset 10. Ils ne savent pas agir avec droiture. Déjà au verset 9, il y a confusion et violence. Verset 10. Ils ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Qu'est-ce qu'on voit? Désordre, violence, manque de droiture, l'enrichissement, l'exploitation des pauvres. C'est le monde dans lequel on se trouve. Et je crois que j'ai cité la semaine dernière un des chiffres que je trouve le plus terrible, c'est que 50% de la la population du monde dispose de 1% des richesses du monde. C'est terrible. Nous sommes parmi les plus riches. Mais il y a une condamnation de l'injustice sociale, on va dire, de la violence, l'expression pour l'exploitation des pauvres. Il traite les femmes des dirigeants de marque de génie, on va dire de vache, hein. C'est ça le mot, hein. Qui s'engraissent, parce que dans beaucoup de pays occidentaux, on cherche à maigrir, alors que dans les pays pauvres, le signe de sa richesse, c'est d'être bien engraissé, on va dire. C'est le monde à l'envers, hein, donc c'est toujours le contraire dans les pays pauvres. Et donc ces épouses qui demandent à leur mari d'écraser des indigents pour apporter et boire. Donc, je ne vais pas insister, c'est simplement une description du mal, du mauvais comportement du pays. Le résultat, que Dieu fera disparaître plusieurs choses. Le sanctuaire de Bethel, ça c'est le verset 14. Je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Donc, Bethel, c'est un lieu historique. Vous savez ce que ça veut dire, Bethel? Beth, maison de, elle, de Dieu. Enfin, c'est la maison de Dieu. Et c'est la ville qui est le plus souvent mentionnée dans l'Ancien Testament, à part Jérusalem. Voilà, petit détail. La ville le plus mentionnée dans l'Ancien Testament, parce que c'était aussi un lieu de résidence de Dieu. Mais là, non, ce sera détruit. Ensuite, les palais luxueux, hein, donc on a parlé des palais au verset 10, mais au verset 15, je renverserai les maisons d'hiver, les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, la maison des grandes disparaîtront, donc à la fois ses résidences principales et ses résidences secondaires, hein, palais d'été, on va dire. Tout ça va être détruit. Parce que vous savez que en filigrane de tout cela, ce que Amos prévoit et commence à annoncer, c'est le fait que les Assyriens vont venir et enlever la population d'Israël pour le déporter en Assyrie. Et donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, si quelqu'un le voudrait, j'ai un petit papier avec la chronologie de Juda et Israël, avec les différents rois, les moments où les prophètes ont prophétisé. Donc c'est pour vous, si vous voulez. Moi je le laisse dans ma Bible, et je trouve très utile, en lisant l'Ancien Testament, d'avoir la chronologie. Et puis, donc les palais luxueux vont disparaître, et puis ces grandes dames, ces génisses, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va les traiter comme du bétail. Donc c'est l'ironie. Des jours viendront, verset 2, où on vous enlèvera avec des crochets. Donc comme une bétail que l'on va mener à la boucherie, seulement ils vont être enlevés loin. Et donc on commence à évoquer cette déportation en Assyrie sans encore nommer le lieu. Donc ce sont premier sort d'appel à la repentance, en pointant le péché, en disant, si vous ne vous repentez pas, il y aura des conséquences, il y aura toujours des conséquences. Le bon comportement dans ce monde n'a pas toujours les heureuses conséquences, on est dans un monde péchu. Le mauvais comportement n'est pas toujours puni tout de suite, mais globalement, et la Bible le dit, on moissonne ce que l'on sème. Ça, c'est dans les Galates. On moissonne ce que l'on sème. Et c'est vrai pour un peuple comme pour un individu. Donc, la première partie, cet appel à la repentance, c'est de montrer voilà comment vous avez mal agi, et si vous ne changez pas d'avis, voilà ce qui va arriver. Et qui le dit? Verset 13. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, selon les traductions, c'est pour souligner sa puissance. Le Seigneur de l'univers, ça c'est la traduction second 21, le sommeur, le Dieu des armées célestes, c'est le Dieu tout-puissant qui le déclare. C'est pas l'avis du prophète. C'est pas Amos qui dit, je réfléchis à cela et je pense qu'au fond, ça va mal se terminer. Donc c'est Dieu qui le déclare. Et cette expression, le Dieu des armées ou le Dieu de l'univers, Amos la répète 9 fois dans les 14 chapitres. Non, c'est 9 chapitres. 9 fois dans Amos. Le Dieu de l'univers, le Dieu des armées. Donc, Dieu cherche à provoquer la repentance de différentes façons. Je ne vais pas lire tout ce texte 4 à 13 avant de faire le commentaire, on va le faire au fur et à mesure. La première chose qu'il dit, c'est que, allez-y, allez jusqu'au bout. C'est les versets 4 et 5. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin, vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Deux problèmes avec cela, c'est qu'ils faisaient les sacrifices qu'il fallait tous les jours, mais c'est les sacrifices avec du levain. Donc normalement, les sacrifices, c'est sans levain. La deuxième chose, quand on a la version que je viens de lire, « Proclamer vos offrandes », j'aime bien la traduction que j'ai trouvée, je ne sais plus dans quelle version de la Bible, « Claironner vos offrandes ». C'est comme Jésus qui a dit, il y a des gens qui font des bonnes choses, qui font des dons, des prières, de façon publique, pour être vu des autres. Et c'est ce qui, apparemment, ce qu'ils aimaient faire. Mais, de son côté, le Seigneur a envoyé toute une série d'épreuves au peuple d'Israël. Et ces épreuves ont une valeur pédagogique. Donc là, je vais lire du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est la même chose qui revient un petit peu dans les chapitres 1 et 2, la même répétition. C'est un procédé un peu poétique pour faire passer le message, mais en même temps, c'était la réalité que ils avaient vécue. Verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Deuxième chose, verset 7. Moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, la sécheresse. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre que l'on n'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et n'ont point abaissé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Troisième chose, la maladie des céréales. Je vous ai frappé par la rouée et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est la maladie et la guerre. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter vos narines l'infection de votre camp. Il y avait de cadavres. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. et vous aviez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi et l'Éternel. Les épreuves avaient une valeur pédagogique pour appeler à la repentance, pour faire réfléchir. Mais malgré cela, ils ne sont pas revenus à l'Éternel. Lisons donc les deux derniers versets de ce chapitre. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sous les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est la conclusion. C'est ça la réalité. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Ce n'est pas un message qui a beaucoup de... On va dire que les gens veulent entendre. Dire Dieu est amour, oui. Et c'est bizarre, on n'a pas fait exprès, mais ceux qui étaient là à l'église publique mercredi soir, on était tombés aussi sur un texte où Jésus parle beaucoup de jugement, du péché, etc. Voilà, c'est deux fois dans la semaine. Mais c'est quand même un thème tout à fait biblique. Dieu est trop saint pour voir le mal, il est obligé d'intervenir et il demande aux personnes, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est une façon aussi d'amener ou pousser à la repentance. Et le dernier verset est intéressant parce que au début de notre culte, on a chanté sur la puissance de Dieu, la puissance créatrice. Il a formé les montagnes, il a créé le vent, il a fait connaître à l'homme sa pensée, il change l'aurore en ténèbres, il marche sur les hauteurs de la terre. Et qui est-il? Encore une fois, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. Alors, que conclure de tout cela? Puisque pour une fois, je n'en ai pas coutume, j'ai fait tout le culte, et j'ai commencé en disant au début de cette matinée qu'on est là pour le Seigneur. Et on peut avoir un nombrilisme qui n'est pas très sain, comme on veut, qui n'est pas très sain, où on pense d'abord à soi-même, alors que la raison pour laquelle on vient rendre un culte à Dieu, c'est pour reconnaître que lui est le maître de l'univers. C'est lui qui mérite notre adoration, qui mérite notre foi, qui mérite notre repentance, parce que lui pense juste, nous pensons mal. Donc, voilà. Tout ce livre du prophète Amos peut se résumer à appel à la repentance. Mais là, on est en plein dedans avec ce deuxième chapitre. Et je pense que il y a deux conclusions que l'on peut tirer entre chaque fois que l'on lit la parole de Dieu. D'abord, dans notre explication de l'Évangile, on ne peut pas faire autrement, appeler à la repentance. Et quand on voit aujourd'hui que chacun essaie de se construire lui-même, hein, c'est très postmoderne, on construit sa propre identité, on choisit qui on veut être, on veut même choisir son genre, enfin tout ce qu'on veut, on ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui est le maître, on ne se construit pas, mais on répond à la vocation qui nous lance d'être ce que nous sommes. Belle phrase. On ne se construit pas, il nous lance un appel à le beau, à correspondre à la vocation qui nous adresse à être ce que nous devrions être. Donc, le message de l'Évangile, c'est toujours repentez-vous et croyez. Pas simplement croyez, mais repentez-vous et croyez. Et de toute façon, et c'est la deuxième conclusion qu'on peut tirer, après avoir pensé aux autres, pensons à nous-mêmes, être toujours prêt à changer d'avis, à veiller à ce que notre marche soit conforme à ce que le Seigneur voudrait. C'est toujours par la grâce qu'il nous accepte. On est en chemin, on n'est pas arrivé, personne d'entre nous, mais on est sur le chemin. Une partie des progrès passe justement par cette notion de repentance, de changer notre représentation mentale pour qu'elle corresponde à la réalité. Comme nous l'avons vu dans les Romains, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui servent de réponse individuelle à ce message, à notre culte ce matin.